Et je vous remercie d'être là. Je voulais vous souhaiter tout d'abord une excellente année de la part de toute l'équipe Spa. Et je suis ravie de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de l'année qui a pour thème comment rendre désirables les métiers du spa pour attirer de nouveaux talents. Alors, je vous informe que nous reviendrons régulièrement sur le sujet de la formation et de l'emploi pour vous accompagner dans ces réflexions qui nous touchent tous actuellement. Dans l'actualité Spa, nous vous informons que nous serons à Bordeaux le 6 février au Beauty Business Day pour animer une conférence sur ce même sujet. Donc, si vous êtes dans la région Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, faites-le nous savoir sur info@spa-a.org et nous vous réservons une entrée à tarif réduit pour cet événement. Ce webinaire se veut participatif, alors n'hésitez pas à vous servir du chat qui est en bas de votre écran et je ne manquerai pas de les relayer. Je ne serai pas seule pour échanger sur ce thème et je remercie nos intervenants du jour que vous ne verrez pas et je m'en excuse. Donc Sabine Hong qui sera avec nous, coach et directrice associée du cabinet Management et Impact Consulting. Catherine Certin et Laurent Durand, directrice et directeur de l'école Catherine Certin Groupe Sylvia Terrade. Et Serge Fourcade, directeur qualité Thalasso Spa, Thalazur. Donc, après cette période de crise sanitaire de plus de 2 ans maintenant, nous sommes face à un changement profond où les contraintes liées à l'activité des centres de bien-être devient une vraie problématique. On l'a vu également dans l'hôtellerie et la restauration. On peut dire que la crise sanitaire a bouleversé les codes de l'hôtellerie et du luxe. Nous sommes face à des employés qui ont de nouvelles exigences, du temps de travail, du bien-être au travail. Donc, ils ont redécouvert, comme nous tous, la vie de famille, les week-ends, le temps pour soi, qui apporte son lot de réflexions. Alors, pour démarrer, j'ai une première question pour Sabine. Comment pourrions-nous décrypter ces nouveaux comportements post-Covid? Sabine, tu es avec nous?
Décrypter les nouveaux comportements post-Covid. Déjà, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut noter quand on écoute un peu l'actualité, c'est qu'on assiste à un phénomène qui prend de l'ampleur, notamment aux États-Unis, qu'on appelle, si vous avez suivi ces derniers jours l'actualité, The Great Resignation. Et depuis juillet de l'année dernière, donc c'est vraiment un effet Covid. Tous les mois, en moyenne, c'est 4 millions à 4 millions et demi de personnes qui démissionnent de leur poste. Le mouvement, il a été lancé par une jeune fille qui s'appelle Shana Blackwell. Je vous invite à aller voir d'ailleurs sur YouTube sa vidéo qui dure 1 minute. Et c'est assez hallucinant. Elle est employée chez Walmart. Et puis, elle lance le mouvement I quit my job. Alors, vous verrez les détails. La façon dont elle le fait. En tout cas, les secteurs des services, évidemment, ont fait la marche en tête, et avec l'hôtellerie, les loisirs, etc. Et puis maintenant, on s'aperçoit que ça s'étend à d'autres professions, au point que certains cadres ont suivi le mouvement, d'une part pour réinvestir à l'intérieur des terres, quitter les grandes villes, et puis on voit que, y compris les PDG, hein, l'équivalent des PDG, puisque les CEO commencent aussi à démissionner en nombre, et le chiffre grimpe en flèche. Alors, on n'est pas aux États-Unis. En France, toutefois, la DARES, qui est la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, constate qu'on a une hausse des ruptures conventionnelles. Et donc, ça semble bien marquer quand même un questionnement profond sur le sens du travail, de la vie, un questionnement, pardon, qui a été largement amplifié par la crise du Covid. Donc, ce n'est pas uniquement une histoire de salaire, même si ça a commencé dans des postes qui étaient peu qualifiés, puisqu'elle était employée chez Walmart. Et si on regardait que le salaire, d'ailleurs, cette position, elle reviendra à considérer que les facteurs économiques principaux et déterminants d'un choix de métier, ce serait le salaire, et on s'aperçoit que ce n'est pas ça du tout. J'aime bien reprendre le mot affectio societatis, parce que ça désigne la volonté, hein, de plusieurs personnes de s'associer entre elles. Et c'est un des éléments caractéristiques de ce qu'on appelle le contrat. Et on voit que dans cette affection de la société, d'autres critères rentrent en compte, et notamment le besoin de s'épanouir. On parle de la question du sens. Moi, je pense que le sens, il a toujours été là. Par contre, qu'on ne cherche pas le même sens aujourd'hui qu'il y a 20 ans, ça, c'est une évidence.
D'accord. Alors moi, il y a effectivement aussi un sondage sur LinkedIn hein, qui m'a interpellée là d'un coach très suivi qui demandait à sa communauté quels étaient les moteurs de motivation d'entreprise. Bon, il a eu plus de 2000 répondants. Alors je partage le résultat. La question était qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre job? Alors 52% c'est le sens, 27% l'autonomie, 16% l'ambiance et 15% le salaire. Donc, on voit que le salaire n'est pas forcément le moteur numéro un. Peut-on dire, Sabine, que le Covid a été un accélérateur de tendance, d'après toi?
Ce qui apparaît assez fortement, c'est que dès l'orientation professionnelle, mais sans doute même dès le premier job, toutes ces décisions, elles sont intimement liées à la construction de l'identité de la personne. Et puisque le sujet tourne notamment autour des jeunes, hein, la question, il semble nécessaire que la représentation que le jeune qu'il a soit cohérente entre l'image qu'il a de lui et celle qu'il souhaite donner. Et celle de son métier. Et donc, on assiste à des jeunes qui revendiquent un droit à refuser des identités négatives, par exemple, dans des métiers où ils ne peuvent pas se réaliser ou s'épanouir. Et le Covid, ça a été une période, si vous vous souvenez quand même, cet état de sidération. Là, je parle pour moi. Moi, j'ai vécu ça comme un état de sidération en mars 2020. La première semaine, d'ailleurs, tous les jours, je me pinçais tellement j'y croyais pas. Vous vous rendez compte que du jour au lendemain, on a tous été enfermés. Ça renvoie à une angoisse existentielle où, de façon consciente ou pas, je pense que chacun s'est interrogé à un moment en se disant, OK, et si je sors de ça, comment j'ai envie de vivre après? Et je pense que c'est ça qui est un des ressorts. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie si je survis à cette crise, encore une fois, qui était inédite? Je pense que dans l'histoire de l'humanité, jamais ça n'est arrivé que le monde entier soit confiné comme ça, du jour au lendemain, simultanément, partout.
Ouais, enfin surtout que là, bon, la Terre entière a été impactée, les médias, enfin, tout le monde s'en
On
est
se
emparé
souvient
parce
des images
que des pandémies,
hallucinantes
il y en a eu.
des capitales vides. Vous vous souvenez, même les animaux reprenaient leurs droits. On voyait passer des biches en plein sur la 5e avenue. Enfin, alors, c'était joli, etc., mais c'est quand même quelque chose qui nous a tous profondément quand même marqués sur le qu'est-ce que je vais faire après.
Tout à fait, ouais.
On est quelque part, on est pionniers aussi de cet après, hein.
Ouais, tout à fait.
On est tous des survivants.
Catherine et Laurent, vous avez, qu'est-ce que vous avez remarqué, justement, noté des changements de la part des étudiants dans leur rapport aux entreprises ou même dans votre prospection étudiante? Est-ce qu'il y a eu des changements aussi de ce côté-là?
Alors, bonsoir à tous déjà. Alors oui, effectivement, nous, au niveau des étudiants, c'est évident que la vie privée est devenue une priorité. Hein. Aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas un changement au niveau de la vocation. Hein. Le spa attire toujours autant de personnes. Maintenant, elles ont envie de trouver un équilibre entre leur vie privée et leur voie professionnelle. C'est vrai que l'alternance est en plein développement, donc c'est une des façons aujourd'hui aussi pour les entreprises de pouvoir recruter, mais elles sont en véritable demande, et ils, hein, puisqu'on a quelques garçons, en véritable demande aujourd'hui d'accompagnement, de notions d'appartenance au niveau de l'entreprise. Elles veulent aussi effectivement un certain confort, hein, parce que vous avez parlé tout à l'heure, Muriel, des horaires, des jours fériés, des dimanches. Hein. C'est vrai que voilà, aujourd'hui, c'est une contrainte qu'on est peut-être un petit peu moins prêt à accepter qu'avant. Hein. Et puis, il y a aussi une notion un petit peu de durée, hein. Peut-être que la durée dans les entreprises aujourd'hui est moins importante. Alors, parce qu'il y a beaucoup d'offres aussi, hein, le marché s'est un petit peu inversé. On a plus d'offres d'emploi finalement que de personnes sur le secteur. Donc, ils savent très bien que s'ils quittent une entreprise et qu'ils en cherchent une autre, ils trouveront. Hein. Donc aujourd'hui, ils ont le choix, donc ils sont un petit peu plus exigeants. Hein. Alors pour moi, la vocation, enfin pour nous en tout cas, la vocation est toujours là, mais il y a une exigence hein, aujourd'hui de la part de cette génération qui est effectivement plus importante.
Moi, j'ai envie de rajouter sur ce que dit Catherine que oui, cet équilibre vie perso-vie privée, évidemment, ça fait partie du sens. Je pense que ce n'est pas le seul critère. puisque dans ce post-Covid, on note aussi que notamment les millennials recherchent des opportunités pour avoir un impact pour leurs clients, pour la société, pour la planète au sens large. Et donc, tout ce qui va comporter une responsabilité sociale ou environnementale des entreprises va aussi compter beaucoup. C'est devenu un critère qui compte aujourd'hui dans le sens.
Et donc, vous faites un accompagnement particulier, Laurent, vis-à-vis des entreprises pour leur permettre un petit peu de comprendre cet après-Covid.
L'accompagnement aujourd'hui au niveau des écoles, je peux parler aussi au nom du groupe TERAD, l'accompagnement au niveau des entreprises tout simplement passe par le métier des développeurs qui est en train de s'accroître fortement. C'est vrai que nous, au niveau de l'école Catherine Certain, on le fait depuis 28 ans et c'est, je pense, très important pour les entreprises d'être rassurées par les écoles sur déjà une première chose, on devait en reparler un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'il faut l'accentuer, l'accompagnement. L'intégration aujourd'hui des alternants, hein, je ne vais pas les alternants, mais aussi des postes CDD, CDI quand elles sont jeunes ou moins jeunes, ou jeunes pour les garçons aussi. Pas oublier effectivement que les hommes sont de plus en plus, dans nos écoles, on en a de plus en plus de jeunes. Donc la notion d'accompagnement, on insiste sur ce fait. Il faut effectivement que le jeune qui arrive dans une entreprise soit accompagné, intégré avec des process pris en charge, accueil, qui est aujourd'hui effectivement aussi des process qui puissent permettre de connaître l'histoire de l'entreprise. Donc il y a cette notion qui doit être accentuée. On insiste, je dirais presque lourdement là-dessus. Ouais. Et tout ça, le premier process aujourd'hui d'accompagnement, en tout cas de la part des écoles, c'est effectivement d'aller voir les entreprises, de signer effectivement les contrats dans les entreprises, et puis aussi d'aller faire des bilans d'évaluation du jeune, savoir s'il y a une bonne prise en charge, et bien sûr donner aujourd'hui les fonctions du tuteur, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'entreprises aussi qui ne sont pas formées ou plus formées, parce qu'on a eu des formations de tutorat ou des formations de mentorat maintenant, sur lesquelles on accélère un petit peu. Le mouvement du mentor, c'est important aussi aujourd'hui de guider les entreprises sur cette fonction de tutorat ou mentorat qui leur permettra tout à fait, enfin, le plus vite possible en tout cas, de pouvoir les intégrer rapidement.
Alors, on reviendra après sur
cette
de mentorat et d'intégration effectivement importante. Je voulais, parce que là, on a fait presque le tour de la table, mais il manque l'aspect un peu terrain et justement entreprise. Donc, Serge, vous avez un long parcours dans les Thalasso et dans l'intégration des équipes, des jeunes, etc. Donc, parlez-nous un petit peu de ce que vous avez constaté sur le terrain et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place un petit peu face à cette situation que vous avez également vécue de plein fouet. Et comment ça s'est passé dans vos Thalasso?
Oui, bonsoir à tous et à toutes. Merci de me recevoir aussi ce soir pour pouvoir échanger. Oui, moi, c'est vraiment ma réflexion et ce que je vais pouvoir vous décrire, c'est ce qu'on a vécu, nous, avec nos 9 thalassothérapies. J'étais encore, il y a un an de ça, sur les exploitations. Maintenant, je suis au siège à Paris, mais j'ai été jusque l'année dernière encore sur les exploitations. Et on a vécu d'abord ce que disait Sabine, ce côté… D'abord, il y a eu la sidération de la part de tout le monde et de la part de toutes les équipes. Et au moment où on a voulu remettre en route nos entreprises, une partie de nos collaborateurs ont fait des choix de vie. Et notamment, Sabine justement le en parlait tout à l'heure, on a eu des abandons de postes, des choses qu'on ne vivait pas forcément de façon aussi flagrante sur d'autres problématiques. Et là, vraiment, aussi parce que je pense qu'en thalassothérapie, alors ça relève aussi du monde du spa dans sa globalité, nous avons aussi un profil de personne qui est proche de la naturalité, de tout ce qui pouvait être médecine alternative, et certains, par une philosophie de vie, n'ont pas souhaité se faire vacciner. Et là, très vite, on a vu que dans pratiquement tous nos établissements, on a perdu 2, 3, 4 personnes parce que ces personnes-là n'ont pas voulu se faire vacciner. Donc, effectivement, il a fallu qu'on soit assez réactif pour retrouver, recruter de nouveaux collaborateurs. Et on s'aperçoit que c'est par des petites choses que nous n'avions pas mises en place avant que nous allons pouvoir arriver à capter ces nouveaux collaborateurs, et notamment le fait de les rassurer sur le bien-être au travail et comment on allait pouvoir aménager aussi les postes, hein, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, en toute sécurité. Là, il a fallu vraiment les rassurer là-dessus. Mmh. Et puis, effectivement, on peut dire, pour résumer la situation, qu'il y a un avant et un après Covid. Je crois qu'on l'a tous bien compris. Il a fallu trouver, être assez malléable et arriver à s'adapter au niveau des plannings, au niveau, alors, pour nos thalassothérapies. Le Covid nous a obligés, et c'est tout à fait logique, de revoir nos protocoles de soins, d'ouvrir nos cabines différemment avec un petit peu plus de temps, à la fois pour désinfecter, mais à la fois pour expliquer aux curistes que vraiment qu'ils reconnaissent qu'on le prenait en charge d'une façon complètement sécure. Et donc, on s'est aperçu que c'était valable pour le curiste, mais c'était aussi valable pour le collaborateur. Et maintenant qu'on était reparti dans un mode de fonctionnement, je ne vais pas dire hors Covid parce qu'on n'est pas sorti du tout, mais c'est vrai que cet été, on était reparti un petit peu à fond puisque la demande était là, eh bien, on s'est aperçu quand même que tous ces principes, il fallait vraiment les conserver, eh bien, tout simplement déjà pour garder nos collaborateurs et puis, encore une fois, pour rassurer nos curistes. Et au niveau, ce que je voudrais rajouter, moi, au niveau du recrutement, puisqu'on en a perdu beaucoup, il a fallu aller recruter, on s'est aperçu qu'effectivement, bien, le marché était très tendu, donc beaucoup, beaucoup de mal à recruter de nouveaux collaborateurs. Et on est reparti, j'allais dire, 20 ans en arrière au niveau de la thalassothérapie, dans le sens où, depuis pas mal d'années, nous faisions confiance, et on le fait encore, on fait encore confiance à toutes ces écoles qui forment des jeunes qui arrivent avec déjà un bagage, et on faisait appel à toutes ces écoles. Et puis, eh ben là, on a rouvert aussi les vannes du côté du savoir-être, c'est-à-dire une personne, un candidat qui arrive avec un très fort potentiel en savoir-être, eh ben, on n'hésite pas à le former, nous, à lui donner un bagage, après l'accompagner sur d'autres formations s'il y a besoin, plus qualifiantes, mais quand même, le savoir-être est redevenu le cœur de notre métier, et on s'aperçoit que déjà, si on a cette partie, on a une personne hyper intéressante au niveau du savoir-être, nous, on est capable de l'accompagner pour le former et que ça devienne un collaborateur de premier ordre grâce à cet état d'esprit. Donc ça, c'est quelque chose qui est redevenu quelque chose de nouveau, hein, c'est un cycle, et que nous avions un peu laissé de côté ces derniers temps.
Ouais, donc vous attachez moins d'importance peut-être à l'expérience ou au diplôme, mais plus à la personnalité et à l'envie et la motivation première de la personne.
C'est exactement ça.
Ouais. Alors justement, est-ce que vous avez modifié un petit peu votre façon de libeller vos offres d'emploi ou vos annonces? Parce que nous, on a fait un petit tour d'horizon aussi des offres d'emploi, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup en ce moment. Et on s'aperçoit que finalement, elles sont toutes un petit peu faites sur le même modèle. Et si on se met un petit peu dans la peau du candidat, on se dit, bon, qu'est-ce qui ferait que j'irais plutôt là que dans cette autre maison, puisque l'annonce est quasiment faite pareil. Et on a eu il y a quelques jours une discussion avec un DRH qui nous disait, on constatait un petit peu cette manière d'avoir des annonces presque identiques, hein, et un peu ennuyeuse, à vrai dire. Donc, il nous a donné quelques tips, alors qu'on va partager avec vous, puisqu'on est aussi sur comment recruter et les offres d'emploi. Donc, il nous a donné quelques conseils que je vous délivre. Donc, pour l'offre d'emploi dite un petit peu attractive, qui sortira un peu du lot, bon, il faut toujours commencer par les infos de base, certes classiques, mais indispensables Et je le dis, mais parce qu'il y en a certains qui ne mettent pas toujours toutes les informations utiles et pratiques. Il faut vraiment parler de l'amplitude horaire, du type de contrat de travail, du lieu du job, de la fourchette salariale quand même. Ça peut éviter des incompréhensions ou trop de personnes qui répondraient alors que finalement la fourchette ne convient pas. Les avantages, et puis personnaliser tant que faire se peut votre annonce, en parlant du cadre, en parlant de l'équipe, de l'environnement au travail. Mettez en avant la valeur ajoutée de votre entreprise. Essayez de vous démarquer en parlant des spécificités. Si vous êtes en bord de mer, comme Serge qui a été longtemps en bord de mer, ça fait partie des spécificités qui peuvent être intéressantes à évoquer et qui peuvent faire la différence. Et puis, avant d'énoncer les exigences du job, du poste, qui sont, quand on n'est pas praticien, un peu toujours les mêmes, ajoutez peut-être un paragraphe sur l'état d'esprit de l'équipe, sur votre culture d'entreprise. C'est un peu l'essentiel qui fera que ce recrutement pourrait être aussi pérenne et durable. Parce qu'on parle de recrutement, mais il faut aussi que ça dure dans le temps. C'est-à-dire que c'est bien de recruter, mais après, il faut qu'il reste. Et là, ça fera l'objet d'un deuxième peut-être un deuxième webinaire ou podcast, parce que maintenant on est un peu sur le format podcast, mais sur la motivation et comment est-ce qu'on fait pour garder ces équipes en place. Alors, Sabine, qu'est-ce que tu penses, toi, de cet aspect un peu séduction que les entreprises essaient ou devraient un petit peu plus adopter pour recruter mieux?
Alors, déjà, par rapport à tout ce qui a été dit, il y a quand même deux grandes phases. Il y a la phase des études et je ne doute pas un instant que les jeunes qui rentrent dans les écoles de formation, et ça rejoint tout à fait ce que disait Serge, sont vraiment fondamentalement animés par cette envie d'être utile aux autres. Le besoin d'utilité, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'attachement qu'on a à son poste. Et donc, la première étape, ça va être d'attirer des talents une fois qu'ils sont formés. Et puis, une fois qu'on les a attirés, encore faut-il lutter contre l'usure rapide aussi du poste, c'est-à-dire qu'il faut les fidéliser. Et dans la façon de construire une offre, moi, j'ai regardé un peu. Alors, j'en parle avec d'autant plus de détachement que comme je ne suis pas du métier, je connais pas les. Enfin, j'ai un regard que je vais me permettre d'appeler neutre, en tout cas sans parti pris. Et dans les quelques annonces que j'ai pu survoler, j'ai ce sentiment qu'on cherche, un peu comme dans d'autres secteurs d'activité, hein, les spas ne font pas exception, mais on cherche toujours le mouton à cinq pattes. Et non seulement on cherche le mouton à cinq pattes, mais non seulement les compétences, non seulement les années d'expérience, mais en plus, on va leur demander par-dessus tout de rajouter du savoir-être, d'être souriant, d'humeur égale toute la journée. Et je pense que c'est là aussi où il y a probablement à accompagner, c'est-à-dire à donner des permissions à être qui on est. Et on va aller vanter, Muriel, vous disiez, une offre attractive où il faut personnaliser l'offre. Mais finalement, dans tout ça, ce que je constate, ce que j'entends, c'est qu'on parle toujours de soi. Or, si on veut attirer l'autre, il faut lui parler de lui. Et bien souvent, même dans la phase de rédaction, je trouve, plutôt que de dire que notre maison a tant d'existence, évidemment, c'est fondamental parce que le sentiment d'appartenance, il va jouer aussi. Hein, c'est comment est-ce que je m'identifie par rapport à la culture d'entreprise? Les exigences du poste, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on ne rédigerait pas une offre? Je ne sais pas, je réfléchis là sans avoir plus avant creusé la question, mais en disant de quoi l'équipe aurait besoin pour s'enrichir? Comment est-ce que mon profil à moi viendrait donner une coloration différente à cette équipe qui fonctionne déjà bien et qui n'attend que moi? Vous voyez, c'est une autre façon aussi, je trouve, d'embarquer les gens, de leur donner envie de suivre. Et puis après, ben dans la phase entretien, c'est vrai qu'on a tendance, malheureusement, à mettre le doigt sur ce qui n'a pas marché, ce qui ne va pas, sur justement les fameuses exigences qu'on doit pouvoir transformer aussi en qualité. Hein, et plutôt que d'aller regarder les expériences malheureuses et essayer de comprendre bah, pourquoi sur ce CV, finalement, vous n'êtes resté que 6 mois, pourquoi là, vous n'êtes resté que tant, pourquoi est-ce que, etc. D'aller au contraire interroger sur qu'est-ce qui fait que vous auriez envie de rester, de quoi vous auriez envie. Et ça commence par faire parler la thématique de ce webinaire, c'était comment rendre désirables les métiers du spa et attirer de nouveaux talents. Et je pense que dans le renforcement de la cohésion d'une équipe, il y a évidemment le travail du manager de proximité et du management, hein, donc au sens large, et ça va vraiment parler de la culture d'entreprise, mais la façon qu'on a de questionner les gens, ça parle aussi de la culture d'entreprise. Et donc, ça pourrait être de demander à un jeune ou à quelqu'un qui arrive de décrire une expérience réussie, un moment vécu au cours duquel il s'est senti particulièrement utile, particulièrement à sa place, engagé, enthousiaste, fier de lui, d'aller réveiller cette notion, cette énergie de fierté, et puis de creuser, c'est-à-dire dans ce moment privilégié, quels sont les talents, les compétences que vous avez mobilisées pour cette occasion. Dans cette expérience, quels sont les facteurs clés qui ont été vraiment source de plaisir, de satisfaction, en quoi est-ce que c'est important pour vous. En tout cas, de laisser la place aux recrutés de pouvoir dire quelles sont les conditions dans lesquelles ils se sentent bien. Serge, tout à l'heure, nous disait on fait tout ce qu'on peut pour le bien-être au travail et je ne doute pas des efforts qui sont faits. Et là encore, les études montrent qu'un salarié bien dans son poste est un salarié bien dans sa peau. Un salarié bien dans sa peau, plus exactement, fait un salarié bien dans son poste et surtout pas le contraire. Et donc, tout ce qu'on va faire sur le lieu de travail, c'est un plus. Ça vient enjoliver, bien entendu. Maintenant, il y a quand même au départ sur les critères de recrutement à regarder, est-ce que les critères sont bien calibrés, quelle est l'adéquation aussi entre la recrue et la culture d'entreprise, hein, parce que ce que montrent les études, c'est que près de 50% des ruptures de contrat surviennent dans les premiers mois et elles sont dues à des divergences de point de vue. Donc, on ne s'est peut-être pas assez parlé avant de se recruter, avant de choisir de travailler ensemble. Figurez-vous qu'il y a quand même 4% des nouvelles recrues qui envisagent de quitter leur job dès le premier jour. Ouais. C'est quand même fou, ça. Donc, à l'évidence, il y a des erreurs de casting aussi au démarrage. Et puis après, j'allais dire, attention de ne pas en faire trop non plus, parce qu'à force de vouloir ce que j'appelle habiller la mariée, on risque un effet d'atterrissage qui sera négatif. C'est-à-dire qu'à survendre le poste, si la promesse n'est pas tenue, la frustration est d'autant plus grande.
Oui, c'est fait. Et donc là, peut-être que Laurent peut nous parler effectivement aussi de son approche pour les entreprises et de l'intégration des équipes en entreprise, qui est une phase qui est hyper importante pour que justement le jeune ou le jeune professionnel puisse intégrer pleinement l'entreprise. Donc, pouvez-vous nous en parler un petit peu
Je m'associe pleinement à ce que vient de dire Sabine. C'est effectivement, à la base, par rapport au recrutement, il faut effectivement… je dirais qu'il faut, vraiment évaluer le niveau de compétence aujourd'hui du jeune ou moins jeune qui, effectivement, est postulant et peut-être aujourd'hui un futur salarié. Ça, c'est hyper important. Et puis, une fois qu'il est recruté, c'est là, effectivement, on essaye, encore une fois, d'accompagner les entreprises. Alors, j'ai parlé d'intégration. Je fais aussi un constat, avec beaucoup d'humilité. Je comprends à 100% aussi le problème des entreprises, parce qu'on dit toujours, oui, les écoles, effectivement, c'est facile pour vous, vous formez les jeunes et les jeunes vous disent ce qui ne va pas. Mais sachez que nous, on comprend aussi les entreprises. Alors, déjà, au niveau de l'école Catherine Certain, on a fait aussi… le métier dans l'esthétique et le spa. Donc, on connaît un petit peu les joies et les peines aujourd'hui des propriétaires de spa, que ce soit hôtelier ou urbain. Et on essaye de faire la part des choses, effectivement, sur les demandes de nos jeunes, leur niveau d'exigence. Il s'avère que le constat que l'on fait, et nous, on en parle en tant qu'observateur, c'est qu'effectivement, on a un problème d'intégration. C'est sûr, c'est ce qu'elles nous disent. Elles ont toujours l'impression… Alors, pas à 100%, on en est loin, mais à 60, à 80% des jeunes qui démarrent dans les entreprises, on a effectivement des jeunes qui se sentent seuls dès le départ. et qui automatiquement, le rêve s'écroule de temps en temps, hein, on nous parle de ça, parce qu'il n'y a pas eu cet accompagnement, il n'y a pas eu effectivement de temps en temps des promesses, maintenant qui ne sont pas faciles à tenir aussi aujourd'hui de la part des entreprises, hein, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce qu'elles vont chercher, et là on peut peut-être en parler maintenant, c'est effectivement, parce qu'elles sont, elles sont volontaires pour ça, enfin, les salariés sont volontaires pour ça, c'est une notion d'appartenance. Ça, c'est vraiment, voilà, effectivement, on a dit tout à l'heure que le salaire n'était pas le plus important, mais elles ont besoin d'appartenir à une entreprise. Donc, ça passe par quoi ? OK, on reprend l'intégration et il faut un process d'intégration bien, je dirais, construit. Mais ça part aussi sur un management qui doit être un accompagnement dans les formes de management. Et aujourd'hui, le management dont tout le monde parle, et effectivement, tout le monde a envie de le mettre en place, il n'est pas si simple que ça. C'est le management de bienveillance qui va mener automatiquement à plein de procédures style le management collaboratif ou participatif. Les jeunes ont besoin aussi de comprendre l'entreprise, d'émettre des idées, de prendre des initiatives. Ça, on a vraiment la demande. Moi, j'ai des jeunes aujourd'hui qui ont soit effectivement 1 ou 2 ans d'expérience en alternance dans les entreprises, mais on a aussi des jeunes qui ont 6 ans, 7 ans d'expérience dans les entreprises qui nous disent on a un certain niveau de compétence, on peut apporter des choses et on ne nous écoute pas pour ça. Donc, c'est vrai que je pense que là, il y a aussi de la part des entreprises peut-être un effort à faire, mais encore une fois, on le comprend, c'est compliqué, mais peut-être de jour en jour, étape par étape, de positionner aujourd'hui un management, un encadrement qui leur permet d'obtenir aujourd'hui cette notion d'appartenance. Et ce que l'on a aussi comme retour, c'est qu'elles se sentent souvent blessées. Alors voilà, on dirait quelquefois à tort ou à raison, mais elles se sentent blessées. Donc, aujourd'hui, elles ont une problématique où ça touche l'orgueil. Et la sécurité de l'emploi n'est plus là. Moi, je parlais il n'y a pas très très longtemps, on parlait ensemble effectivement de process managérial comme Oscar, où on va effectivement, à partir du moment où on est blessé, ne plus être en sécurité dans l'entreprise. On va perdre de la considération et automatiquement, c'est là que se pose le problème. Et effectivement, ça arrive aussi dans ces cas-là. Elle le voit très rapidement et les démissions arrivent à court terme. Voilà. C'est vrai qu'on a, quelque part, on a plus de démissions à court terme aujourd'hui dans l'ensemble des contrats qui sont passés en alternance CDD-CDI que des démissions qui arrivent au bout, quelquefois, d'un an et demi d'alternance ou 2 ans, 3 ans, 4 ans d'expérience dans l'entreprise. Il y a aussi, il y a des démissions au bout de 3-4 ans. On sait que le turnover aussi est là, présent sur certains postes dans le SPA au bout de 2 ou 3 ans, surtout sur les postes à responsabilité. Voilà un petit peu, le panorama, enfin tout ça, ce que le scan aujourd'hui que nous, on a en direct venant aujourd'hui de nos étudiants toutes les écoles.
Je pense qu'il y a une étape qui est absolument cruciale. À laquelle on ne pense pas toujours, c'est ce qu'on appelle le onboarding. Quel est le processus d'intégration ? Quels sont les processus, d'ailleurs, dans vos entreprises pour présenter le nouveau salarié, l'impliquer auprès de l'équipe ? Quelle est la disponibilité de son manager ? Quelles sont les formations aux outils ? Enfin, toutes ces choses qui font que, très vite, il va se sentir chez lui. Et ça, c'est pareil. C'est, l'alchimie, elle se fait... Je pense que la mayonnaise, elle monte rapidement. Et si ça ne se fait pas, si ça n'accroche pas, si ça ne crante pas à ce moment-là, après, on risque de ramer pour les garder.
Bonsoir, c'est Marie-Paul. J'ai une question qui est aussi pour Sabine, où on tourne autour de ce sujet. Qu'est-ce qui se passe dans un entretien quand, dans cette rencontre, j'aimerais que tu l'évoques, si, par exemple, je ne retiens pas la personne ?
Mais ce qui est intéressant pour moi dans cette qualité de savoir-être, déjà, je voudrais juste, parce que j'ai vu passer dans les commentaires rapidement, faire un salut à quelqu'un qui doit avoir une approche un peu similaire que la mienne, qui est Pierre-Jean Bonnat, je crois, puisqu'il a reconnu que les questions que je posais sont évidemment issues de ce qu'on appelle l'approche appréciative. C'est comment est-ce qu'on est appréciatif ? Or, Toute la différence aujourd'hui, elle va, le savoir-être, il va aller au-delà de ce qu'on a appris. C'est pas se contenter d'être aimable et de dire bonjour. Le savoir-être, fondamentalement, ça va aller toucher la sincérité et l'authenticité. Et donc, dans un entretien, on peut avoir un échange qui soit authentique, qui crée un vrai transfert d'émotion, parce que la communication, ça n'est que un transfert d'émotion. Et si on a eu une émotion, il s'est passé quelque chose. Et ça ne veut pas dire qu'on va le retenir. Mais par contre, d'abord, on ne sait pas de quoi la vie est faite, on peut le recroiser quelques années plus tard. Si lui, il a rencontré quelqu'un, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des entretiens à l'appel, j'allais dire, comme je vois faire parfois, où, vous savez, comme les visites d'appartement, là, il y a 35 personnes et le monsieur de l'immobilier fait visiter les gens, soit tous en même temps, ce qui est le pire, soit les uns derrière les autres, et on a l'impression d'être à l'usine. Mais s'il y a eu le temps vraiment de se poser, de se rencontrer, de pouvoir parler, évoquer les métiers. Et même si la personne qui n'est pas retenue pour un job a compris pourquoi elle n'était pas retenue, je vous assure qu'elle n'est pas frustrée, elle ne vous en veut pas. Elle a appris quelque chose. Et je reviens sur cette histoire d'approche appréciative parce que le changement de paradigme, il est là aussi. C'est-à-dire que c'est véritablement la façon dont on va questionner les gens, la façon dont on va rentrer en contact avec eux, c'est ce changement de mindset. C'est-à-dire que ça n'est pas une mise en scène le temps de l'entretien, ça traduit fondamentalement qui vous êtes et vous êtes les ambassadeurs, je dis souvent l'appartement témoin de vos entreprises. C'est-à-dire que le premier contact avec l'entreprise, c'est vous. Et c'est ça qui est fondamental dans l'échange. Je ne sais pas si ça répond, Marie-Paul.
Oui, et puis toujours cette question que pose notamment Cécile Troude, approuvée par Cécile Trouillet, c'est oui. De se dire également qu'est-ce qu'on fait quand les candidats, bah, finalement, tu leur proposes de venir et ne viennent pas à l'entretien. Est-ce que toi, tu invoques quelque chose avant? Comment ça se passe? Quand, par exemple, tu as dit, tu l'as eu en Zoom, tout s'est bien passé, et puis malheureusement, bah, le candidat, le jour J, il ne vient pas te voir pour l'entretien.
Oui, c'est ce qui remonte en ce moment dans pas mal de...
Oui,
oui. Oui. Et puis, on assiste aussi à des abandons de poste. Moi, il y a une RH qui me disait la dernière fois, il y a des gens qu'elle recrute, et puis ça fait 2-3 mois qu'ils sont là, puis un jour, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. On ne sait pas s'ils sont absents pour la journée, on ne sait pas s'ils sont tués en voiture, on ne sait pas s'il faut les remplacer. Au bout d'une 10 jours, on n'a toujours pas de nouvelles. La loi ne permet pas qu'on soit intrusif au point de savoir ce qui fait que. Et il y a des abandons de poste comme ça qui posent des problèmes même sur le plan du remplacement, hein, parce que tant que la personne n'a pas démissionné, le poste il est réputé occupé, et pourtant la personne n'est pas là. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai eu le changement de mindset. Et puis en même temps, cette même RH me disait, mais finalement, est-ce qu'on ne devrait pas faire aussi une espèce d'autocritique de la façon dont on a travaillé jusque-là? Quand on voit les centaines de CV parfois qu'on voit les jeunes pour obtenir 2 réponses négatives, ça ne comprenait même pas la peine de leur répondre. Et finalement, on a peut-être la monnaie de leur pièce.
Oui, pas faux.
Mais ces questions-là, quand bien même on trouverait la réponse à ces questions-là, je pense qu'elles n'ont aucune forme d'intérêt. C'est-à-dire que la vraie question, c'est, OK, on en est là et on fait quoi? Est-ce que ça veut dire que dans un plan de recrutement, il faut toujours avoir un plan B? Sans doute. Est-ce qu'il y a peut-être une façon de sonder ou de vérifier lors de l'entretien en Zoom que la personne est fiable? Est-ce que soi-même, on a été perçu comme quelqu'un de fiable? Qu'est-ce qui fait que la personne finalement décide de ne pas venir? C'est des vraies questions. Et donc, ça renvoie à soi aussi. Hein. Je pense qu'il y a probablement beaucoup à faire dans la façon qu'on a de mener les entretiens. Mais mener les entretiens, ça n'est que la partie émergée de qui on est réellement. Et je pense que là, on a tous un travail à faire.
Oui, oui. Alors, il y a quelques questions. Certains signent un contrat et ne viennent pas prendre leur poste sans aucune justification. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Laurent, alors ça doit être Sophie Lavert à Laurent. Très bonne analyse, très proche de la réalité. J'imagine que c'était par rapport au mentorat ou à l'intégration, mais difficile parfois à mettre en place. Néanmoins, voilà, je pense que c'est utile de se poser la question de cette intégration et du tutorat ou du mentorat dans les... Et le mentorat, ce que tu disais, Sabine, c'est que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut apprendre, le jeune va apprendre avec quelqu'un de senior, mais la personne aussi senior peut apprendre du jeune en entreprise.
Oui. Et je pense que c'est important d'avoir cette mixité générationnelle avec ce que j'appelle un mentorat bilatéral, c'est-à-dire qu'on a chacun à apprendre des autres. Et c'est ça qui crée le lien. Et d'ailleurs, les jeunes, ils sont aussi dans des recherches de parcours qui soient rythmées. Est-ce que, je ne sais pas, moi, je ne sais même pas si c'est possible, je hasarde, est-ce que ce serait de pouvoir ponctuellement faire des stages même très courts au sein des marques partenaires, c'est-à-dire d'apprendre plus des produits que j'utilise. Le reskilling, ce qu'on appelle le reskilling, c'est la façon qu'on a de faire monter en compétences pour éviter un recrutement externe. Comment est-ce qu'on peut élargir les compétences? Parfois, j'entends parler de polyvalence et oui, il faut de la polyvalence, mais pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas envie de polyvalence. Et s'assurer que dans la polyvalence, il y a toujours quelque chose à apprendre. Une des clés, à mon sens, qui est fondamentale, quelle que soit l'époque, c'est que tant que j'apprends, tant que je grandis, je reste là. C'est-à-dire que c'est le seul moyen d'aller contacter la notion d'épanouissement, elle est là. Elle est d'apprendre et de grandir. Si j'apprends plus rien, ben oui, je vais regarder ailleurs. Hein. D'ailleurs, l'expression la plus favorite des gens qui quittent leur poste, c'est de dire qu'ils ont fait le tour de la question.
Oui.
Alors, justement, moi, je voulais revenir sur quelque chose d'important aujourd'hui pour nos auditeurs. C'est qu'effectivement, nous, on a un retour au niveau de la plupart de nos jeunes qui sont entre 15 maintenant et 29 ans dans nos entreprises en alternance sur la monotonie aujourd'hui des tâches. On a beaucoup de jeunes qui viennent vers nous en disant « mais je fais toujours du massage, du massage, du massage, du massage ». On en avait parlé un petit peu la dernière fois. Et là, c'est une difficulté pour les entreprises, on le comprend, de pouvoir, je dirais, donner effectivement la possibilité à ces jeunes de peut-être faire autre chose dans l'entreprise. Est-ce qu'elles ont d'autres… Donc, d'aller chercher les compétences. Effectivement, il y a certaines entreprises qui les positionnent sur le massage, mais qui leur donnent aussi du temps sur l'accueil pour comprendre un petit peu les clients. Est-ce qu'il y a la possibilité, l'esthétique aujourd'hui a quand même bien rattrapé le spa, est-ce qu'il y a des possibilités plus souvent de les mettre en soins visage, de les mettre en vente? Ça, elles ont un besoin, hein. Ça, beaucoup d'entreprises sont informées aussi là-dessus, mais nous, on a vraiment un retour aujourd'hui de nos jeunes de 15 à 29 ans qui nous parlent de ça très très souvent.
Je vais me permettre de prendre la parole 30 secondes pour répondre un peu à Laurent, puisque ça fait partie des leviers qu'on a pu mettre en place effectivement dans nos 9 thalassos, où on s'est aperçu que, et ça rebondit aussi sur ce que disait Sabine, il fallait nourrir le jeune et moins jeune aussi, de tout un tas de compétences qu'on apportait au fur et à mesure, et quand c'était à la fois nécessaire et à la fois compatible avec le niveau de la personne et où cette personne en était. Et en accompagnant de cette façon-là et en permettant aux gens de passer au spa, à l'esthétique, alors si c'était des personnes déjà diplômées en esthétique, les emmener vers le spa et les emmener vers l'hydrothérapie, effectivement, on a pu stabiliser et fidéliser une partie de nos collaborateurs parce que les journées étaient rythmées, parce qu'on changeait d'un poste à un autre, on parlait dans notre jargon, on passait d'une zone humide à une zone sèche, on faisait des massages longs et puis on peut basculer sur des prestations plus courtes parce que là aussi, au niveau bien physique, il faut tenir, hein. C'est des métiers qui sont quand même très durs aussi. Donc, si on sait justement faire vivre nos journées différemment avec… On va changer 4 fois de poste dans la journée dans certains de nos établissements, et bien on s'est aperçu que c'était vraiment un plus et un vrai levier pour garder ses collaborateurs.
D'accord. Alors, il y a des commentaires, il y a Maud qui nous dit en effet très bonne analyse de ce qui se passe des deux côtés. Comme le disait Sabine, il y a un véritable changement dans la recherche de sens, dans son travail, éthique, bien-être, reconnaissance. C'est une génération qui grandit avec en information constante que la planète et la société économique et sociale va mal. Ils n'ont donc pas le même recul. C'est intéressant. Luc, recherche de sens, dites-vous Maud. Je suis d'accord, mais le sens n'est-il pas à chercher dans la pratique elle-même de ce métier et non pas autour ? Ah, ça devient terrible. Avec le label Spa, on fait très attention à ne pas leur faire faire des massages et de leur proposer autre chose. Formation visage, vente et essayer de confier à chacune une responsabilité. Donc là, c'est la polyvalence, essayer de faire un petit peu faire autre chose.
En fonction des profils, dans cette polyvalence, probablement, enfin, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas dans tous ces jeunes certains qui sont peut-être très créatifs et qui pourraient aussi participer à aller une journée ou deux au service communication d'entreprise, ou d'autres qui sont très chiffres et qui envisagent un jour de monter leur propre unité. Bah, pourquoi ne pas leur faire faire un stage de comptabilité ? À chaque fois que vous apprendrez quelque chose à un jeune, vous en faites un allié. Et si demain, il ne travaille plus chez vous, de toute façon, il travaillera pour vous. Vous voyez, et c'est là le changement de mindset. C'est que on tisse aussi des liens particuliers pour une collaboration qui peut dépasser le simple job description.
Alors moi, je vais rejoindre un peu Sabine dans ce sens-là, et c'est ce que nous, on essaye d'enseigner à nos élèves aujourd'hui, puisqu'on a les diplômes d'État, mais on a bien évidemment après les CQP, les titres, et on va avoir une formation, par exemple, en spa manager, et c'est d'instaurer des process, hein, parce que c'est aussi de leur donner des objectifs et de pouvoir quantifier un petit peu ce qu'elles vont réaliser. Mais je crois qu'aujourd'hui, et nous, les écoles, on est aussi concernés hein, par le recrutement, on a moins de candidats qu'avant, et je crois qu'on est obligé d'adapter nos postes aussi en fonction des candidats qu'on reçoit. Je crois qu'il faut que chacun fasse un pas en avant. Donc, on a effectivement des critères et on a une sélection. Mais après, il faut, après, en fonction du candidat que l'on reçoit, peut-être adapter le poste. Donc, c'est vrai que si on a une personne, on sent qu'elle est douée en communication et elle peut apporter, par exemple, sur les réseaux sociaux, en général, elles sont très, très fortes. Hein. Elles vont pouvoir aider les entreprises. Certaines maîtrisent un petit peu moins. C'est vrai que souvent, il y a une notion de temps aussi du manager. Qui est très pris, qui se retrouve sur plein de tâches et qui ne peut pas forcément accorder toujours énormément de temps à son équipe, mais peut-être des petits process du matin, des petites réunions, des petits briefs le matin pour pouvoir programmer de la journée, pouvoir donner des objectifs à chacun et effectivement donner du sens. Hein, si on donne du sens à ce que l'on fait, si on l'a quantifié, si on donne un objectif, si on se sent utile, c'est aussi comme ça qu'on va favoriser le recrutement et peut-être que dans l'entretien d'embauche, montrer qu'on vend son entreprise, on essaye de séduire, hein, de faire venir les candidats, mais essayer de plus s'adapter aux candidats, d'être un petit peu plus dans l'empathie, de montrer en quoi il va pouvoir apporter quelque chose à l'équipe. Et c'est vrai que si on donne du sens, on arrive à recruter un petit peu plus. Mais je pense qu'on…
Vous voyez, même l'expression « donner du sens », je ne sais pas finalement si on en donne. Je pense que ça en a ou pas. Mais pour moi, le sens, c'est comment j'existe dans le regard de l'autre.
Et mais donc, des fois, on ne l'exprime pas. On l'a peut-être, ce sens, mais on ne l'exprime pas suffisamment. Parce qu'on est plus dans la présentation du poste et dans la vente et dans le recrutement et peut-être dans des critères de sélection et on ne prend pas assez de temps, même si soi-même on en est persuadé, on ne prend peut-être pas assez de temps pour écouter la personne que l'on recrute et pour lui montrer à quel point l'entreprise va lui apporter quelque chose, mais elle pourra apporter ou lui pourra apporter à l'entreprise.
Oui. Et puis les temps changent, les jeunes, ils ont aussi des choses à nous dire, hein. Ils ne le savent pas toujours, mais quand on pense que d'abord il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a un métier qui n'existait pas, c'était community manager, la moitié des postes qui existeront dans 10 ans ne portent pas encore de nom, probablement la façon de faire des massages va encore beaucoup évoluer, le profil des clients, où est-ce que l'innovation va arriver, mais elle est tout le temps partout, donc il faut rester aussi très à l'écoute, et c'est eux qui nous amènent ces clés-là. Et parfois sans le savoir. Et c'est pour ça que le lien a tellement d'importance.
Mais notamment si on reprend l'évolution du métier au niveau du massage. Aujourd'hui, on a un protocole de soins, mais on sait que c'est important dans ce protocole d'avoir une part qui fait partie de la formation et qui est propre à l'entreprise ou à la marque. Mais il faut laisser une part aussi à l'esthéticienne, hein, au praticien, de pouvoir s'exprimer parce que lui aime plus faire telle ou telle manœuvre où il peut exceller. Ben, c'est important hein, qu'il puisse personnaliser. Et puis, personnaliser aussi en fonction du client. Donc prendre du temps pour lui poser des questions, pour voilà. Mais ça, si dans le recrutement déjà on lui fait sentir qu'il va pouvoir apporter sa touche personnelle, je pense que ça peut aider aussi hein, pour faire venir la personne.
Je vais être un peu provocatrice même, parce que finalement le client est roi, c'est ce qu'on a toujours entendu. Mais si on veut que les salariés soient aussi finalement un peu les rois chez eux, ou au moins les princes, dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent ou pas choisir leurs clients? Je ne sais pas.
Alors, il y a une question de Cécile qui dit « Toutes les candidates que je rencontre, y compris celles qui débutent, me demandent quelles sont les évolutions possibles du poste. Difficile de promettre de l'évolution dans une équipe. » Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Que tu ne peux pas faire de fausses promesses ou que tu n'as pas assez de visibilité sur de possibles évolutions pour de petites équipes? Ouais, pour de petites équipes, c'est peut-être pas évident d'avoir une vision d'évolution possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? Comment est-ce qu'on peut pallier ou en tout cas continuer à motiver
Moi, je pense qu'il faut interroger le rêve parce que évoluer pour évoluer, c'est quoi l'objectif recherché derrière? Quelle est la demande qui n'est pas formulée? Parce que
devenir manager, certaines évolutions personnelles. Le souci est surtout que des jeunes filles avec une année d'expérience veulent déjà évoluer et sont vite frustrées sans se laisser le temps d'apprentissage nécessaire. Ça, c'est une autre personne qui fait cette remarque.
Oui. Je vois qu'on parle de la formation. Hein. Alors, peut-être juste me permettre, on dit qu'il faut évoluer au niveau de la formation. Alors, je crois que c'est vrai et que les écoles hein, ont une responsabilité. Je crois que nous, au niveau du groupe Sylvia Terran, on en est extrêmement conscient et on met beaucoup de choses en place. C'est pour ça qu'il y a eu aussi la création de CQP, la création de titres. Aujourd'hui, on a des bachelors, on va même vers le master. Hein, donc, il y a des évolutions possibles au-delà des diplômes d'État. Mais je crois que les évolutions, elles doivent se faire aussi effectivement dans les deux sens. On ne peut pas non plus tout demander aux écoles. Et après, je rejoins un petit peu Sabine. Qu'est-ce qu'est évoluer hein? Est-ce qu'il ne faut pas aussi donner des objectifs à la personne qui est dans l'entreprise? Parce que l'évolution, elle se fait au quotidien, elle se fait d'un soin sur l'autre, elle se fait sur différentes tâches. Donc, les gens sont très attachés au titre. Donc, c'est peut-être aussi repositionner sur une fiche de poste. Hein, des fois, elles ne sont pas toujours établies, les fiches de poste dans les entreprises. Donc, pour savoir exactement ce que l'on va faire, est-ce que ce n'est pas des évolutions? Ben, vous allez être capable de faire telle chose au bout d'un trimestre, au bout d'un an, voilà quelle autonomie vous aurez. C'est peut-être aussi bien repositionner l'évolution du poste c'est un peu comme la vente, hein. Quand on dit il faut vendre, bah, il faut le quantifier. Donc, une évolution, je pense qu'elle se quantifie aussi au travers de process, au travers de fiches, au travers d'entretiens aussi, hein, l'entretien des salariés annuel que l'on doit faire. Des fois, on est pris par le temps, hein, on le comprend encore une fois au niveau des entreprises, mais c'est vrai que cet entretien, il est nécessaire pour aussi montrer à quel point la personne a évolué. Des fois, elle ne s'en rend pas compte, hein, mais elle a pris des responsabilités, elle a pris une autonomie, elle a suggéré des choses au niveau de l'équipe et puis finalement, on les a mis en place. Donc, montrer comment ça a été appliqué dans l'entreprise.
Moi, je vois qu'il y a une bonne question aussi de la part de Marie-Paul aujourd'hui. Ouais. C'est assez intéressant, ça.
Elle est la relayée.
Effectivement, ouais. Les élèves aujourd'hui qui veulent faire du spa, je vais me positionner sur deux choses. Les élèves qui veulent faire du spa n'ont jamais été dans un spa. Alors, Marie-Paul, tu as raison à 100%, simplement parce que moi, je fais du recrutement de spa pour la formation de CQP spa praticien. J'ai des parents avec moi. La première chose que je leur demande aujourd'hui, est-ce que votre fille ou votre garçon a déjà reçu un soin? Je vous assure qu'à 90%, ils n'ont jamais reçu un soin. Alors après, vous me direz, il faut effectivement pouvoir le payer. Aujourd'hui, ce sont des coûts. Mais voilà, au moins, on leur demande aujourd'hui à ces jeunes de rentrer déjà dans l'univers du spa avant de commencer les formations. Et c'est vrai que c'est plus compliqué parce que parfois, elles ne le peuvent pas par rapport à leur éducation, leur culture ou autre. Mais on s'attache vraiment à ce que, enfin nous, en tout cas, dans nos recrutements, de pouvoir déjà avoir un... Et déjà, ça, on ne l'a pas. C'est vrai que ce n'est pas évident aujourd'hui qu'une jeune femme qui sort du monde de l'esthétique avec un CAP, BP, Bac Pro et qui veut aujourd'hui arriver en tant que spa praticienne, alors dans un spa urbain ou dans un spa hôtelier, ne connaisse même pas, n'a jamais reçu effectivement un soin. Donc on essaye, et je pense que les écoles doivent quand même de temps en temps poser cette question, j'espère en tout cas sur les recruteurs pour les formations de spa praticiens. Deuxième chose qui est importante aujourd'hui, effectivement, et je comprends les professionnels qui nous disent mais attention, il faut qu'on discute ensemble sur ce que l'on peut apporter aujourd'hui dans les formations spa. N'oubliez pas que les CQP spa praticiens et les CQP spa managers, le cahier des charges, il a été mis en place aussi par les professionnels il y a quelques années maintenant. Alors, il faut le faire évoluer. Et je pense que les écoles en France, en tout cas, nous sommes, je dirais, prêts et à l'écoute pour qu'on nous donne aussi quelquefois des informations aujourd'hui sur les métiers, spa praticien, spa manager, sur l'évolution des métiers. On essaye d'aller le voir. Hein. Encore une fois, on visite les entreprises. Moi, je visite 150 à 200 entreprises physiquement par an, voilà, du plus petit spa urbain au plus gros spa hôtelier. Et je leur dis souvent, mais revenez vers nous, envoyez-nous aujourd'hui vos interrogations. Est-ce que nous, on peut suffire aujourd'hui à vos besoins, à vos exigences, ou est-ce que vous pouvez nous apporter des outils? Il faut savoir que nous, on est en demande de cela. Et voilà.
Et n'hésitez pas non plus, et c'est important parce que toutes les écoles le demandent, à venir dans nos écoles, à venir jurifier, on en a besoin. Et c'est vrai que souvent, quand on fait appel au jury, c'est assez difficile par un manque de temps de la part des chefs d'entreprise, de la part des managers. Mais c'est important que les écoles se déplacent dans les entreprises. Et honnêtement, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on développe aujourd'hui au niveau de l'ensemble de nos écoles et du groupe TERAD. Mais c'est important aussi que les entreprises viennent dans nos écoles, déjà viennent voir ce que l'on fait, qu'on puisse évoluer ensemble, mais viennent aussi jurifier nos élèves et puissent constater aussi de la qualité des formations. Et c'est comme ça qu'on va avancer, école et entreprise, voilà, ensemble, parce que chacun doit faire un pas et chacun doit pouvoir évoluer.
Très bien.
Partager juste une expérience. Il y a quelques années, j'ai eu la chance d'intervenir auprès d'une formation de spa manager et j'ai été surprise une fois de croiser un profil que je ne m'attendais pas à trouver là, qui était une jeune ESSEC qui, après quelques années d'études et d'expérience professionnelle, déjà avait décidé d'opérer une reconversion. Et elle, elle avait jeté son dévolu sur le spa et c'est ça qu'elle voulait faire. Et je voudrais boucler avec une des questions de Serge au tout début, un partage qu'il a fait, en disant on s'attache surtout à suivre les gens qui ont du savoir-être. Mais dans quelle mesure, et ça aussi, ça procède du changement de mindset, est-ce qu'on est capable de détecter des profils qui sont absolument attirés par le métier, même s'ils n'y connaissent rien? Et est-ce qu'on accepte de former des gens qui, a priori, n'ont pas le cursus pour ça et qui portent en eux un potentiel réel d'intérêt et d'épanouissement pour ces métiers-là?
Je voudrais juste rajouter quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure sur ces jeunes gens qui arrivent et qui veulent évoluer rapidement. Je pense que Sabine l'a dit à un moment donné, quelque chose d'essentiel, c'est d'être honnête aussi quand même dans ce qu'on va proposer. Et d'emblée, si on leur explique qu'effectivement, il peut y avoir, ça ne sera pas forcément facile d'évoluer, surtout quand c'est une petite équipe. On peut au moins s'engager sur le fait de les faire grandir. On est pratiquement tous accompagnés de jolies marques. Et ces marques, tous les ans, arrivent avec des nouveautés, avec de jolis soins supplémentaires. Et si on leur dit, effectivement, peut-être que chez nous, vous ne pourrez pas évoluer trop rapidement. Par contre, voilà, on s'engage à vous faire participer à toutes ces formations et à vous accompagner sur toutes ces formations. Et je pense que là, on a quand même une carte à jouer aussi.
D'accord.
Et puis, je pense qu'au-delà du soin, le soin n'est qu'un élément. C'est le plus visible, mais et là je parle encore une fois plus peut-être en tant que cliente. Je pense que au-delà, le soin n'est que finalement le prétexte à rencontrer un cadre, à rencontrer des rituels, à rencontrer une histoire, à rencontrer des savoir-faire, une philosophie aussi. C'est très empreint de tout ça. Et donc ça va. C'est bien au-delà du geste. Il y a toute la philosophie qu'on met dedans, l'art de vivre, tout simplement.
Bien.
Je ne voulais pas plomber l'ambiance.
Non, mais... moi, j'écoutais. Et je vois que l'heure tourne, il est 19h32. On s'était fixé une heure, 18h30, 19h30. On sait qu'on se reverra sur ce sujet-là et qu'on fera d'autres thématiques parce que c'est vraiment la problématique du moment et qu'on a envie d'avoir ces nouvelles pistes de réflexion, de pouvoir se dire, bon, comment on fait? Il y a des choses qui ont changé, donc revoyons un petit peu notre position. C'était très intéressant. J'espère que ça vous a été... utile pour ceux qui nous ont écoutés, qui ont été avec nous et avec ceux qui entendront le replay, le podcast. Hein. On a vraiment innové sur un nouveau format. Je suis désolée de ce petit bug vidéo, mais en tout cas, merci à vous. Le plus important, c'était de vous entendre et c'était d'entendre votre voix sur ce sujet. Donc, je remercie Serge, Catherine, Laurent, Marie-Paul qui nous a rejoint, Sabine, pour tous ces éclairages, toutes ces pistes de réflexion. Et je vous dis à très bientôt, à très vite. Si vous êtes donc le 6 février sur Bordeaux, n'hésitez pas à passer nous voir à l'hôtel Pullman Bordeaux-Lac, où Marie-Paul animera cette thématique lors d'une conférence. Appelons-nous si vous voulez avoir des renseignements sur cet événement. À très bientôt. Merci à vous tous.
Merci à vous beaucoup. Merci infiniment. Et bon Serge plaisir. Et Sabine, et ben voilà, ils sont tous partis. Bon, ben c'est très bien.
Merci. Merci Marie-Paul.
Merci
Marianne. À vous.